Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous retrouvons Denis, astronome. Ça y est, il est titulaire d'un diplôme. Bonjour Denis.
Bonjour Gisèle, bonjour à toutes et à tous. Et ravi de vous retrouver sur ce plateau pour vous parler d'astronomie. Aujourd'hui, en qualité d'astronome amateur, pour commencer,
oui.
Tant que j'ai pas de place encore dans un observatoire astronomique, quoi.
Eh bien voilà, l'appel est lancé.
Voilà.
Si quelqu'un a besoin d'un astronome, on en a un chez nous. Vous êtes titulaire du Dufraisse,
oui,
ça y est.
Également. Donc, il n'a rien à voir avec la formation d'astronomie et d'astrophysique. Le Dufraisse, qui est le diplôme d'université de responsable de formation. C'est une formation qui a été mise en place à l'université Jean Jaurès par Patrice Bouissière, qui est maître de conférence au sein même de cet établissement. Et c'est un diplôme qui permet d'avoir des responsabilités de cadre de formation, de responsable pédagogique. Et ma foi, c'est parfaitement, je dirais, compatible avec l'astronomie,
hein, oui.
Surtout dans des structures associatives, voire des observatoires donc astronomiques, bien entendu. Quoi.
On va continuer la naissance, la formation des étoiles.
On peut parler de naissance aussi. Hein.
Oui. Est-ce que chaque étoile qui naît a-t-elle son atmosphère propre à elle? Est-ce qu'elle a cette couche de gaz peut-être? Je ne sais pas. Expliquez-nous.
Oui, tout à fait. Hein. Les étoiles possèdent, on va dire, plusieurs atmosphères. Hein. Il y a une atmosphère interne, d'où provient le rayonnement, qui nous parvient justement jusqu'à nous. Hein. On parle là de photosphère. Hein. Le radical de photosphère, c'est photon, hein, c'est-à-dire lumière. Hein, c'est la lumière que nous recevons.
Oui.
Et puis, il y a une atmosphère externe qui entoure la photosphère et qu'on appelle aussi la chromosphère. Photosphère, chromosphère constituent en fait les atmosphères stellaires, c'est-à-dire les atmosphères donc des étoiles. Tout à fait. Bien entendu, que ce soit au niveau de la photosphère ou de la chromosphère, eh bien, il y a des phénomènes que nous pouvons retrouver, tels que les taches solaires, voire les protubérances solaires. Ces jets de flamme qui se dégagent justement de la surface, entre guillemets, des étoiles. Il ne faut pas oublier quand même que les étoiles, ce sont des masses fluides, hein, ce ne sont pas des corps solides, hein, ce sont des boules de gaz qui ont un aspect sphérique grâce justement à la gravité. Hein. C'est la gravité qui permet de pouvoir façonner, entre guillemets, la forme sphérique justement des étoiles.
Oui. Est-ce que les étoiles, puisque vous dites que c'est sphérique, est-ce qu'elles tournent sur elles-mêmes comme le fait la Terre ?
La mécanique même d'un solide en rotation diffère de celui d'une masse fluide telle que le Soleil. C'est-à-dire que les vitesses de rotation qui existent au niveau des pôles et au niveau de l'équateur sont différentes. Hein. Il y a tout un mécanisme, hein, bon, sans rentrer dans les détails, qui font qu'on a des différentiels de vitesse entre le pôle, justement, les pôles de l'étoile et puis la région de l'équateur. Tout à fait.
Et chaque étoile qui naît, puisqu'elle naît avec une atmosphère, est-ce qu'elle a sa place dans le ciel? Parce que je suppose que il y a déjà les étoiles, et quand cette étoile arrive, elle doit prendre une certaine place. Il faut qu'elle pousse les autres ou pas?
Oui. Oui, c'est une façon très imagée, on va dire. Ne vous inquiétez pas, il y a de la place pour tout le monde, hein, vu les dimensions dans l'espace, dans l'univers. Hein. Je tiens quand même à rappeler qu'une étoile, donc, par définition, c'est un corps qui vit par sa propre lumière.
Hein. Oui.
Cette lumière, elle est émise dans toutes les directions de l'espace. Après, il est vrai que des étoiles, on en a toute une diversité dans notre galaxie. Hein. notre galaxie qu'on appelle la Voie lactée, oui. Hein, qui est un vaste conglomérat d'étoiles. On en compte à peu près 200 milliards. Hein, 200 milliards d'étoiles qui constituent notre galaxie. Et notre Soleil, lui, qui est une étoile banale, hein, parce qu'il y a des étoiles beaucoup plus petites, beaucoup plus grandes, constitue justement cette fameuse galaxie, hein, qu'on appelle la Voie lactée. Alors la Voie lactée, c'est une galaxie qui a une structure spirale, une spirale barrée, parce qu'on a une présence d'une barre,
oui,
au niveau de la galaxie. Et en plus des étoiles, eh bien, on a du gaz et de la poussière. Hein. Dans les émissions précédentes...
Oui, on en avait parlé.
Voilà, on avait parlé énormément de ce milieu interstellaire, oui. Hein, ce qu'on appelle, oui, le MIS, hein, qui est constitué de gaz, de poussière. Hein. Et ce gaz et cette poussière vont jouer un rôle important, justement, dans la naissance, dans la création, justement, des étoiles. Hein. On sait que l'élément le plus abondant dans l'univers, c'est l'hydrogène, d'accord ? Et notre galaxie, la Voie lactée, eh bien, elle a encore des réserves d'hydrogène, hein, justement, pour créer encore de nouvelles étoiles. Mais toutes les galaxies ne sont pas logées à la même enseigne, parce qu'il y a des galaxies qui sont très appauvries en gaz, elles ne pourront plus créer ou très peu d'étoiles, et puis il y a des galaxies qui sont très riches en gaz, en hydrogène, et qui pourront créer de nouvelles étoiles. Et nous, dans notre galaxie, en plus de toute cette diversité d'étoiles différentes, hein, hein, il y a des étoiles qui sont beaucoup plus brillantes ou moins brillantes que le Soleil. Quand vous sortez justement le soir, qu'est-ce que vous observez ? Ben, vous observez des étoiles d'éclats différents. Oui. Hein. Ça, c'est lié non seulement à la distance, mais également aux propriétés intrinsèques liées aux étoiles. Hein. Et en plus, on peut remarquer qu'il y a des étoiles aussi de différentes couleurs.
Oui.
Et dans une émission précédente, j'avais expliqué également, oui, qu'il y avait une corrélation entre la température de surface, hein, de la photosphère, et la couleur, en fait, de l'étoile, hein, cette couleur qui nous parvient. Donc, on peut voir des étoiles beaucoup plus bleutées, beaucoup plus jaunâtres, beaucoup plus orangées. Hein. Si vous observez une étoile comme Bételgeuse dans la constellation d'Orion, par exemple, eh bien, c'est une étoile qui est une géante rouge. Elle émet un rayonnement qui est beaucoup plus rouge. Tandis que Rigel, par exemple, qui est une autre étoile de la constellation d'Orion, eh bien, elle émet un rayonnement qui est beaucoup plus bleu. Hein, pourquoi ? Parce que ce sont deux étoiles qui ont des températures différentes.
D'accord. Voilà.
Et dans l'émission justement précédente, j'avais commencé à parler justement de la création justement des étoiles. Hein. Alors comme je le disais, dans notre galaxie, on a des réserves, des poches de gaz. Ces poches de gaz, elles ne sont pas statiques dans l'espace. Hein. Tout ça, ça se meut dans oui, l'espace. Hein. Il y a les éléments chimiques, les atomes, les molécules, eh bien, vont rentrer en collision. Et en rentrant en collision, du fait d'être en interaction avec d'autres matières ou ça peut être des phénomènes de contraction, en fait, des poches de gaz gravitationnelles liées à des ondes qui proviennent de supernovas, par exemple, vont permettre de mettre en mouvement tous ces atomes des gaz. Et justement, cette agitation va s'accompagner d'une élévation de température, d'accord, et d'une augmentation de la luminosité.
D'accord.
Mais au départ, hein, dans toute cette gestation, on va dire, eh bien, il y a très très peu de rayonnement du visible qui nous parvient. Hein. On a affaire à des luminosités qui sont 100 fois plus faibles que celles du Soleil. Il n'y a quasiment pas de rayonnement visible qui nous parvient. Et en espace d'un siècle, hein, de 200 ans, que va-t-il se passer ? eh bien, on va avoir progressivement une élévation de température.
Hein. Oui.
On va passer des températures qui sont de l'ordre du 0 degré absolu jusqu'à des températures qui vont monter jusqu'à 4500 degrés
oui. hein,
en espace d'un siècle. On va atteindre les 4500 degrés au niveau de la surface de la fameuse proto-étoile, hein, ce cocon en fait
oui.
initial stellaire qui est en train de se former, pour atteindre des luminosités au bout de 100 ans qui atteindront à peu près 500 fois la luminosité du Soleil.
Hein. Mm-hmm.
On passe d'une zone d'ombre, une zone complètement obscure d'une certaine région de l'espace, à un globule qui émettra un rayonnement dont la luminosité sera de l'ordre de 500 fois la luminosité solaire. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente.
Oui,
on serait complètement aveuglé.
Et oui, tout à fait.
Déjà qu'on a du mal à voir le soleil à l'œil nu, mais oui. vous imaginez une luminosité 500 fois plus importante.
Oui.
Et ceci dans un espace d'un siècle, mm-hmm. de 100 ans.
Oui.
Après, la prochaine étape, eh bien, c'est... cette température va rester constante. Et puis, la luminosité, progressivement, eh bien, va diminuer. Elle va diminuer pour atteindre à peu près 10 fois la luminosité solaire. Alors, 10 fois la luminosité solaire au bout de 100 000 années, à peu près. Hein, 100 000 années. Donc là, on rentre dans un processus qui va être beaucoup plus long. Hein. On passe d'un siècle à 100 000 ans à peu près.
Oui.
Et au bout de 100 000 ans, quand la proto-étoile aura atteint une luminosité qui correspondra à 10 fois celle du Soleil, eh bien, la température va grimper de nouveau, va augmenter progressivement. Et de 4500 degrés, eh bien, on arrivera à peu près à 5000 degrés. Hein, autour, au niveau de la surface en fait, de la proto-étoile, et ça en espace de 1 million d'années, à peu près.
Oui.
1 million d'années, voilà. On va passer d'une température de 4500 à 5000 degrés en espace donc, d'un million d'années.
Oui.
Et le Soleil, la proto-étoile en fait, atteindra une luminosité qui sera comparable à celle du Soleil. Et là, ensuite, on va rentrer sur 10 millions d'années à peu près, dans une phase qui va être une phase de prénucléarisation. C'est-à-dire que les éléments chimiques au cœur même du Soleil vont s'organiser de telle sorte à pouvoir progressivement à amorcer donc les premières réactions nucléaires. Hein, ceci au bout de 10 millions d'années à peu près. Voilà. Et on rentrera dans ce qu'on appelle la phase Tottori. La phase Tottori, c'est en fait la naissance de l'étoile, proprement dite, au bout de 2 millions d'années, pour des étoiles dont la masse est équivalente à celle du Soleil. Hein. Pour des étoiles dont la masse est beaucoup plus faible ou beaucoup plus importante, les processus seront différents.
Mm-hmm.
Voilà. Mais il faut compter, pour une étoile type Soleil, à peu près 10 millions d'années
oui.
pour que les premières réactions thermonucléaires puissent être initiées, s'enclencher justement.
Oui.
Voilà un petit peu le scénario,
oui.
Le schéma, en fait, les différentes étapes
oui.
de la création d'une étoile oui. typique comme le Soleil.
Oui, ce qui explique d'ailleurs qu'on ne peut pas le voir, finalement, puisque 10 millions d'années, on ne sera plus là.
Alors oui, tout à fait. Ce qu'on peut constater, en effet, c'est qu'on a affaire à des échelles de temps qui sont relativement importantes. Hein, mais on peut très bien voir la naissance, hein, tout à fait, d'une étoile du jour au lendemain,
oui.
comme l'explosion d'une supernova du jour
mm-hmm.
au lendemain. Hein, mais c'est vrai qu'en fonction de la distance de l'astre, eh bien, ça mettra plus ou moins de temps
oui.
pour que l'information puisse nous parvenir.
Hein. Juste une question avec une réponse certainement courte. Le Soleil est-il une étoile ?
Alors, le Soleil, bien entendu, c'est une étoile.
Hein,
une étoile bon, qui est banale,
oui.
qui a une durée de vie de 10 milliards d'années. Et là, on est à peu près à mi-parcours.
Hein. D'accord.
Et pendant longtemps, on s'est quand même posé la question d'où provient cette fameuse énergie, justement, qui provient du soleil. Au départ, on pensait que l'énergie du soleil était la même chose qu'alimenter le poêle en charbon ou en bois. Mais en faisant les calculs, on s'est aperçu qu'il y avait des choses qui ne collaient pas. Il a fallu attendre 1905, hein, grâce aux travaux d'Albert Einstein, pour comprendre que l'énergie n'était pas d'origine de combustible, mais nucléaire.
Oui. Si un soleil naissait en dehors de notre galaxie, parce que dans notre galaxie, il ne peut pas y avoir deux soleils, ça ne serait pas possible.
Dans notre galaxie, il peut y avoir plusieurs soleils. Hein. Dans notre galaxie, il y a 200 milliards d'étoiles, hein, oui. Comme je le disais tout à l'heure. Oui. Et les étoiles, ce sont des soleils.
Et donc, alors, qu'est-ce qui se passerait alors, si on avait un autre soleil aussi ardent que celui qu'on a ?
Ah non, mais il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais la question est très intéressante. Pourquoi ? Parce que quand les proto-étoiles, justement, se forment dans les globules, dans un globule, il peut avoir plusieurs proto-étoiles qui sont en train de se former, c'est-à-dire plusieurs étoiles. Et c'est pour ça qu'on a, dans notre galaxie, des systèmes d'étoiles doubles, voire des systèmes d'étoiles triples. Mais, encore une fois, il faut suffisamment de matière pour que l'étoile puisse exister. Mmh. S'il n'y a pas suffisamment de matière dès le départ, s'il n'y a pas suffisamment d'hydrogène, et si toutes les conditions ne sont pas réunies, eh bien, le processus sera avorté. Hein, si je prends par exemple les planètes joviennes, hein, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, vous voyez que ce sont des grosses planètes. Hein, ce sont des grosses planètes, des planètes géantes. Et on a remarqué qu'elles étaient constituées d'hydrogène, d'hélium. Et l'hydrogène et l'hélium, ce sont les composants chimiques du Soleil. Et pendant longtemps, on a essayé de comprendre pourquoi ces planètes étaient aussi importantes, pourquoi elles avaient la même composition chimique du Soleil. Eh bien, tout simplement, c'est que Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune auraient pu devenir des étoiles. Hein. Mais quand vous avez des masses d'hydrogène qui sont inférieures à un dixième de la masse du Soleil, d'accord, eh bien, le processus, malheureusement, est interrompu parce qu'il n'y a pas suffisamment d'énergie pour amorcer les premières réactions nucléaires, qu'on a affaire à des grosses planètes. D'accord. Voilà l'explication de ces fameuses grosses planètes qui constituent notre système solaire. Et puis, il y a l'autre cas où si vous avez des masses qui sont supérieures à 60 fois la masse du Soleil, la masse initiale, eh bien là, il y a la pression de rayonnement de l'étoile est tellement importante que l'étoile se disloque.
D'accord.
Hein, si on prend par exemple l'étoile Eta Carinae, eh bien, elle se trouve dans ce genre de situation. Pour qu'il y ait une étoile, eh bien, il faut quand même respecter un certain nombre de critères, tels que la masse. Hein, la masse d'hydrogène initiale est un des critères qui est important, justement. Il faut que ça rentre justement dans une certaine fenêtre d'accessibilité pour que justement les étoiles puissent naître. Hein. Mm-hmm. Mais une étoile comme le Soleil, ça a une durée de vie de 10 milliards d'années, d'accord ? 10 milliards d'années. Et si vous avez des étoiles qui font 1,5 fois la masse du Soleil, hein, eh bien, elles auront des luminosités 6 fois plus importantes et elles auront des durées de vie beaucoup plus courtes. En effet, d'accord, plus l'étoile est grosse, plus elle émettra de l'énergie, plus la température de surface sera importante et plus courte sera leur durée de vie.
D'accord. Eh bien, est-ce que toutes les étoiles sont identiques ? Je suppose que non.
Comme je l'ai expliqué précédemment, en effet, toutes les étoiles ne sont pas identiques. Elles n'ont pas le même diamètre, donc pas forcément le même volume. Elles n'ont pas la même température de surface. Elles émettent des rayonnements différents, des quantités d'énergie différentes. Il y a des différences au niveau de leur structure interne. Hein. Mm-hmm. qu'il y a des situations où l'équilibre entre les pressions de rayonnement et la gravité soit complètement déstabilisé, hein. Et ça peut entraîner des étoiles beaucoup plus grosses aussi, hein, qui ce qu'on appelle oui. des géantes, des étoiles qui gonflent, hein, avec le temps, mm-hmm. et qui peuvent donc devenir des supernovas, hein, pour des étoiles qui sont très massives. Oui. Et bien là, c'est toute l'enveloppe extérieure de l'étoile qui se met, je dirais, à se disperser donc dans l'espace
L'étoile explose, c'est
voilà, ça en quelque sorte, voilà.
D'accord.
Ça fera l'objet de notre sujet.
On y reviendra, bien
mais
sûr.
Mais il y a des étoiles extrêmement grosses, hein. Tout à l'heure, je parlais de Bételgeuse, par exemple, dans la constellation d'Orion, hein, qui est une géante rouge. Eh bien, elle a quand même un rayon, cette étoile, qui dépasse la distance entre notre Soleil à l'heure actuelle et la planète Mars.
Hein. Ah oui.
Vous savez que la planète Mars est une planète qui est située à 228 millions de kilomètres. Hein. Je vous rappelle, la Terre, elle se situe à 150 millions de kilomètres. Hein. Ça vous rappelle quelque chose, Gisèle?
Oui.
La Terre, 150 millions de kilomètres.
On peut y aller en week-end.
Voilà. Mars est situé à peu près à 228 millions de kilomètres.
Oui.
Donc, vous imaginez une étoile comme Bételgeuse dans la constellation d'Orion, qui a un rayon, d'accord, qui dépasse la distance du Soleil à Mars, qui dépasserait les 228 millions de kilomètres.
Énorme.
Vous imaginez?
Non, on ne peut pas l'imaginer, ce n'est pas possible.
Vous imaginez la taille de Bételgeuse dans la constellation d'Orion? C'est formidable.
Oui. Ça me pose une autre question. On envoie des fusées, on envoie plein de choses dans l'espace. Est-ce que les gens qui sont partis avec des fusées dans l'espace, est-ce qu'ils ont vu de près des étoiles?
Non, en fait, si on veut réaliser justement des photographies au-delà de l'atmosphère, on aura des photos de meilleure qualité. Pourquoi? Parce que les photos sont prises au-delà d'une certaine couche atmosphérique.
D'accord, par des satellites.
Qui jouent le rôle de filtre. Hein. C'est notre problème et c'est pour ça qu'on construit des observatoires en altitude, pour qu'on soit au-delà d'une certaine couche atmosphérique et pour obtenir des images de très haute résolution. Mais si on compare par rapport aux photos du télescope spatial Hubble, par exemple, eh bien, je dirais, il n'y a pas photo, si j'ose dire.
Oui, oui,
on
oui,
a quand même des photos de meilleure qualité, mais ce n'est pas parce qu'on va dans l'espace qu'on verra donc des étoiles beaucoup plus grosses. Hein.
Oui.
Ça restera, elles resteront un point ponctuel dans l'espace.
Tout à fait. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir dans le ciel en ce mois d'avril?
Pour le mois d'avril, bon, pour le 5 avril à 2h42 du matin, pour les plus courageux, bon, il y aura un astéroïde qui viendra de nous voir. Il s'agit de Seth Iris, hein, c'est un nom un petit peu curieux, qui sera situé à peu près à 3 unités astronomiques. Hein. Donc je vous rappelle, l'unité astronomique, c'est la distance de référence, hein, étalon, qui correspond à la distance entre la Terre et le Soleil, c'est-à-dire 150 millions de kilomètres, donc vous multipliez par 3. Qui aura une magnitude autour de 9. Elle ne sera visible qu'à partir des instruments. Parce qu'en théorie, la magnitude, hein, je rappelle, c'est l'échelle de mesure de l'éclat d'une étoile. Et généralement, bon, pour l'observateur, on limite autour de 5-6, hein, la magnitude. Donc là, il faut quand même avoir un instrument pour pouvoir observer cet astéroïde. Le 16 avril, à 23h, hein, donc la Lune sera au périgée. Je rappelle que le périgée, c'est le point de l'orbite lunaire, en fait, le plus proche, en fait, de la Terre. Voilà. Oui. Et le 24 avril, à 2h03 exactement, là, il y aura une conjonction entre la Lune et une nébuleuse M8, qui est la nébuleuse de la Lagune, qui est dans la constellation du Sagittaire. M8, parce que c'est le huitième objet classé par Charles Messier dans son catalogue d'astres, de galaxies ou de nébuleuses. Voilà.
Nous avons fait un beau voyage à nouveau dans ces étoiles qui naissent. Peut-être en reparlerons-nous parce qu'il doit y avoir encore plein de choses à dire.
Oui, il y a énormément de choses à dire. Donc, l'objet justement de ces émissions, ce n'est pas de faire un cours d'astronomie,
oui, tout à fait.
Mais simplement pour sensibiliser les gens justement à cet environnement qui est fabuleux, qui est notre environnement astronomique. Hein, c'est quand même intéressant de s'intéresser un peu au ciel,
oui.
À la Lune, au Soleil.
Oui.
Vous savez encore qu'à l'heure actuelle, nombreuses sont les personnes qui pensent que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre.
Non,
oui.
C'est pas vrai.
Tout à fait, oui. Le pourcentage n'est pas négligeable.
Ah bon,
voilà. Tout à fait.
Bien, ben oui.
Ce qui n'est pas faux dans son mouvement apparent.
Oui, c'est vrai. Je comprends. Mais Denis, toutes les bonnes choses ont une fin. On se retrouvera bientôt pour parler encore du ciel et encore, parce que on n'a même pas commencé, on va dire, oui. À l'échelle de l'année-lumière.
Oui, avec grand plaisir. Merci à toutes et à tous. À très bientôt.